Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et société.
Karine Landry est doctorante en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal, donc ici même, et membre du groupe de recherche Figura. Elle enseigne également la littérature française et québécoise au cégep de Valleyfield depuis 2008. Ses intérêts de recherche gravitent autour des identités numériques, des communautés virtuelles et de l'imaginaire du réseau. Et sa thèse, donc, sur laquelle elle travaille, porte sur les textes en prose de l'autrice québécoise et artiste multidisciplinaire dont elle va nous parler aujourd'hui, Caroline Georges. Le personnage réticulaire dans le roman de synthèse de Caroline Georges, entre récit des origines et récit posthume.
Merci. Je commencerai à vous présenter peut-être forme de plan avec ici... Une petite citation de Van Gennep, je pense, qui met la table pour ce qui s'en vient, donc quelque chose d'assez circulaire. Donc, vivre, c'est sans cesse se désagréger et se reconstituer, changer d'état et de forme, mourir et renaître. Et on voit un peu là, que dans le plan, ça va s'articuler à l'intérieur. J'amorce maintenant la première partie, donc autopoïèse. Conçu comme un moyen d'analyse des phénomènes sociaux, l'autopoïèse se définit par la capacité de certaines entités à fonctionner de manière circulaire et autonome au cœur de la théorie des systèmes, qu'on pourrait appeler aussi la cybernétique. Autopoïèse vient du grec auto, qui signifie soi-même, et poïèse, évidemment, c'est-à-dire production, travail artisanal, création. C'est une propriété d'un système qui se produit lui-même en constante interaction avec son environnement et qui, malgré les changements, réussit à maintenir son organisation. Pour illustrer cette organisation, Umberto Maturana et Francisco Varela, que j'ai fort probablement détruit les noms en les prononçant à la française, désolé déjà, prennent l'exemple de la cellule biologique. Cette position épistémologique, appelée théorie de l'autopoïèse, se définit par la possibilité de se produire soi-même, d'envisager le concept de l'identité à la fois comme ipséité, idem, et identité narrative, un peu référence ici à Ricoeur, bien entendu, et j'ajoute en parenthèse, et ou numérique. De transformer les types d'interactions dans le réseau en regard des perturbations environnementales et d'envisager ce concept comme une subjectivité décentrée. On verra, peut-être que plus tard on parlera de subjectivité nomade. Donc, je cite ici, « Varela élargit la conception de l'identité à d'autres domaines que la biologie, aux êtres sensibles, même rudimentaires, qui désignent ceux auxquels il nous faut reconnaître une certaine dimension informationnelle, un esprit en quelque sorte si rudimentaire et opaque qu'il soit. L'auteur ne parle pas seulement des êtres vivants, mais également des systèmes composites, c'est-à-dire de tous les agrégats, comme les niches écologiques, les systèmes de gestion, les conversations, les sociétés animales, qui se présentent partout où émerge le sentiment d'un être distinct, se détachant de certains fonds et doté des capacités cognitives avec lui. » Fin de la citation. Si la cellule biologique est l'illustration concrète dont se servent Maturana et Varela pour vulgariser cette théorie des systèmes issus du domaine de la biologie, ce qui sépare l'extérieur et l'intérieur de la cellule remet en question la subjectivité, l'autonomie et l'individualité. Ces concepts sont sujets à une redéfinition selon la perspective post-humaniste, puisque l'être humain semble ne plus être en mesure de se concevoir sans ces médiations technologiques. Au tournant des années 2000, Internet et les réseaux sociaux réalisent une techno-utopie séduisante, mais alimente l'angoisse reliée à la possible instauration d'un pouvoir suffisamment totalisant pour uniformiser le contrôle des masses. Malgré cet horizon dystopique, commun, dois-je le rappeler, à toute innovation technologique, Amin Maalouf exprimait dès 1998 un espoir ambigu à l'égard d'Internet qui, je cite, « vu de l'extérieur et avec un a priori de méfiance, est un monstre planétaire, ectoplasmique, par le moyen duquel les puissants de ce monde étendent leurs tentacules, donc le lien avec l'affiche est fait. Sur la Terre entière, vu de l'intérieur, l'Internet est un formidable outil de liberté. un espace raisonnablement égalitaire dont chacun peut se servir à sa guise et au sein duquel quatre étudiants astucieux peuvent exercer autant d'influence qu'un chef d'État ou une compagnie pétrolière. Fin de la citation. Si David n'a pas encore triomphé de ce Goliath tentaculaire, il faut dire que l'arrivée des premiers réseaux sociaux, Facebook le plus connu en 2006 et les métavers, Second Life, vous verrez pourquoi je les nomme, en 2003, donc héritiers en quelque sorte de la pensée cybernétique, participent à leur tour à la redéfinition des concepts du vivant et du non-vivant, mais aussi de la communauté et de l'identité, puisque les frontières du continent virtuel sont de plus en plus poreuses. Alors, tout début, ces réseaux étaient envisagés par le commun des mortels comme des lieux de partage au sein desquels les individus pouvaient joyeusement démultiplier leur moi. Comme l'explique Jean-Michel Ganassia, je cite, c'est dans le Humanité numérique, « L'univers numérique étend nos existences un peu au-delà de ce que la nature nous autorise à vivre, et cette vie imaginaire s'opère par l'entremise de personnages fictifs qui prolongent nos identités en les augmentant parfois ou en les troquant. Ces doubles de nous-mêmes apparaissent de plus en plus souvent. Ils appartiennent désormais à notre monde quotidien. » Après 20 ans, l'aura de communion universelle qui entourait les réseaux sociaux n'est plus ce qu'il était. Plusieurs recherches menées, entre autres, par la mathématicienne américaine Cathy O'Neill, j'en cite quelques-uns, Yves Citon, philosophe, ou encore l'anthropologue Cherry Turkle, en font des constats troublants, ils ne sont pas les seuls. En effet, nous avons appris que les réseaux sociaux sont des moyens de communication structurés par des algorithmes aux allures de tête chercheuse qui creusent les inégalités. Ceux qui les contrôlent capitalisent sur notre degré d'attention cognitive et ceux qui les consomment de manière abusive, en plus d'ignorer souvent qu'ils sont eux-mêmes le produit, développent à l'usage une forme de brouillage mental qui exacerbe l'anxiété, la violence, la honte et la culpabilité. L'idéal de beauté et de réussite sociale véhiculée par ces réseaux est, comme on le sait, inatteignable. Pourtant, ces projections d'un réel espéré ont la propriété de faire cliquer abondamment sur les images et les vidéos dans une logique toujours plus vertigineuse d'accumulation de marchandises qui semble le maillon entre le rêve et la réalisation de son incarnation. Après 20 ans donc, ces moyens de communication ne nous apparaissent pas plus novateurs que le téléviseur, l'ordinateur ou même le téléphone, à la différence, cependant, qu'ils offrent la possibilité, le croit-on, d'une manière d'action et surtout, ils offrent la possibilité de multiplier les identités, quoique parfois on peut faire des coups de téléphone qui permettent de se changer un peu d'identité, mais c'est une autre histoire. Dès lors, par l'entremise de ces pseudo-engendrements identitaires, les individus se perçoivent de plus en plus comme des personnages ridiculaires, de là évidemment le titre, notion que je tenterai de définir à travers le roman de synthèse de Caroline Georges, autrice québécoise. Donc, Caroline Georges est une artiste multidisciplinaire qui s'intéresse tout particulièrement à la modélisation 3D. Caroline Georges utilise souvent sa propre image comme matériel de création. Les images qu'elle crée sont visibles sur son site web, dans l'environnement Second Life, sur Facebook ou encore dans les galeries d'art visuel. Ses œuvres mettent en scène des images modifiées d'elles-mêmes qui représentent en quelque sorte ses extensions. Alors, je continue. Ce sont en quelque sorte ces extensions, des extensions qui sont comme un réseau de soi. Il en va de même pour les personnages de ses romans, qui sont autant de miroirs qui reflètent l'artiste multidisciplinaire, comme le monde ses avatars sur la plateforme virtuelle Second Life et les images de synthèse qu'elle crée. Cette iconographie représente le fondement romanesque de son dernier roman de synthèse. On comprend ainsi mieux la double signification du titre. Cette autoréflexivité autoréférentiel, si je peux me permettre, est encore plus manifeste dans ce texte puisqu'il est fortement ancré dans le discours social de la fin du 20e, début du 21e siècle. Même si l'intrigue se déroule dans un futur lointain, mais plus si lointain finalement, le projet artistique de Caroline Georges ressemble à un système autopolitique, car il est marqué par la possibilité de se produire soi-même, d'envisager le concept de l'identité à la fois comme épicéité, idem et identité narrative, de transformer les types d'interactions dans le réseau en regard des perturbations environnementales et d'envisager le concept de l'identité comme une subjectivité qu'on dira décentrée, qu'on suppose. Publié donc entre 2001 et 2018, soit en pleine période d'expansion de la désormais première génération des réseaux sociaux, les romans de Caroline Georges, je vous les nomme, donc La Mue de l'Hermaphrodite en 2001, Ataraxie en 2003, Sous béton et De synthèse en 2018, dont il est question ici, anticipe les conséquences des réseaux, mais aussi des avancées technoscientifiques. Et souvent, par exemple, dans La Mue de l'Hermaphrodite, il y a question de clonage, c'en est un exemple. Donc, les conséquences sur la condition humaine, que certains vont nommer évidemment la post-humanité. Non seulement du point de vue de l'après, parce que souvent c'est ce que nous annonce ce fameux préfixe, mais surtout en question du devenir, c'est-à-dire la transformation de la fusion vivant-non-vivant. Émergeant des frontières de la marge, les personnages du roman de Caroline Georges présentent des anomalies diverses, et peu importe qu'ils soient prodiges, ils sont toujours exclus. De manière délibérée ou imposée, ils expérimentent volontairement ou non des dispositifs technologiques dans l'objectif de renverser le système de l'intérieur pour échapper à leur déterminisme ou plus simplement à la réalité. Dans ce contexte numérique, ceux qui reconnaissent les signes de l'instrumentalisation de leur identité représentent de véritables apax, c'est-à-dire des prodiges qui réussissent à se réaliser à travers leur relation Zoé, Géo, Techno, Médié, selon l'expression de Rosie Bredotti. Ce qui signifie, rapidement, que l'individu peut désormais se définir par ses relations médiées à l'égard de sa condition d'être vivant, non pas seulement l'être dans la cité, si on veut, mais aussi en tant que biologiquement étant un être vivant. Au sein d'un environnement, évidemment, c'est le géo, donc on ne peut plus se concevoir sans ses relations avec l'environnement qui nous entoure, dont on est interdépendant. Modifié par la technologie, bien entendu, et ce, non pas depuis les réseaux sociaux, mais depuis plus longtemps encore, évidemment. Faisant en sorte que l'idée de hiérarchisation laisse place à un rapport sociologique au monde, dans une perspective, évidemment, que vous aurez deviné, autopoétique. Or, ce que les romans de Caroline Georges interrogent justement, c'est la question des modifications culturelles qui introduisent ces nouvelles technologies et leurs usages. Il semble, en effet, qu'un changement dans les pratiques culturelles établit un autre ordre symbolique, ce qui implique une redéfinition des valeurs et d'autres formes de ritualisation. Ainsi, je propose que si on réfléchit depuis les années 60 à la définition du post-humain, il est fondamental d'étudier l'articulation entre ces rites et ces pratiques culturelles nouvelles et leur incidence symbolique et sociale sur nos manières d'être et de penser. De ce point de vue, mes questions anthropologiquement incontournables liées à l'identité, à l'être ensemble ou non, et à la mort, entre autres, devraient être examinées. Les textes de Caroline Georges permettent, je crois, cette exploration. À partir donc des travaux de Jack Goody sur les technologies de l'intellect, dont on reparlera vers la fin, Thierry Turcotte, dont on a parlé au début, étudie depuis 1984 le rôle d'informatique sur l'esprit humain. Ses observations sur le terrain l'ont amené au constat suivant, je cite, « Nous avons peur de ne pas paraître parfaits, nous avons peur de la spontanéité, nous avons peur d'être impliqués, de devoir nous engager. Tout cela est devenu redoutable parce que nous avons désormais la possibilité de nous cacher les uns des autres derrière un écran. » Fin de la citation. L'intitulé oxymorique de son plus récent ouvrage « Seul ensemble » témoigne du subterfuge derrière cette techno-utopie. Elle soulève des enjeux liés à la cyber-solitude, à l'empathie feinte et aux rencontres transactionnelles. On semble confondre de plus en plus connexions et relations. Derrière l'écran, la majorité des individus éviterait l'authenticité d'une conversation et l'angoisse de la présence, mais elle serait plus que jamais sujette à la comparaison perpétuelle avec les images, qu'elles soient authentiques ou générées évidemment par l'intelligence artificielle. Toujours en quête identitaire, ce rapport à l'image virtuelle et aux réseaux sociaux plonge l'individu dans une quête identitaire par la mise en scène perpétuelle de soi qui rejoint à certains égards celle des adolescents. Cependant, à la différence de l'adolescence qui normalement prend fin, l'addiction à la virtualité des réseaux cristallise cette quête de manière pérenne dont les manières d'être installent l'individu sous une forme de dédoublement qui le maintient en marge de lui-même dans une forme de néothénie infinie. Par ailleurs, l'addiction aux réalités numériques permet d'éviter l'épreuve de la réalité, du moins sa matérialité, inscrivant l'individu dans un réel contrôlé bien que contrôlant. Les comportements que je viens d'exposer semblent se rapprocher de ceux de la narratrice du roman lorsque son père lui demande de venir au chevet de sa mère à l'agonie. Elle est en proie à une crise d'angoisse généralisée à l'idée de devoir quitter son écran, duquel elle ne s'éloigne, pour ainsi dire, jamais. Revoir ce père alcoolique et violent et cette mère dont elle s'est éloignée volontairement la titanise. Je cite. L'hôpital est à 15 minutes de mon appartement. Il suffit de descendre au niveau du stationnement souterrain, de choisir un automate en libre service à côté de la porte, puis de me laisser conduire par le pilote virtuel. Je n'ai jamais eu à faire l'expérience de ce type de véhicule, mais la présentation en ligne promet une utilisation intuitive et facile. Or, je ne peux pas. Je suis paralysée. La perspective de m'éloigner de mon appartement me terrifie. Je ne sors plus de chez moi depuis longtemps. Je me suis cloîtrée pendant le premier des attentats terroristes à Montréal. On parlait d'attaque à l'âme bactériologique après la série d'explosions. La chasse à l'homme a duré 3 jours. Je suis restée enfermée pendant 1 mois. Sans même sortir sur le balcon, j'ai commencé à tout me faire livrer à ma porte. Un petit relat de pandémie ici. Donc, on ferme les guillemets. Donc, oscillant entre le spectre du repli sur soi et la promesse de l'émancipation individuelle, grâce aux technologies du virtuel, l'héroïne se propulsera, je cite, dans le cyberespace vers Anouk, qui, elle, n'a aucun organe interne, pas la moindre veine, qu'une charpente sans épaisseur, un réseau d'informations nettes, où vient se poser l'illusion d'une peau, un corps, post-humain, peut-être, fin de la citation. D'entrée de jeu, la narratrice du roman de synthèse déclare être née entre 1859 et 2013, c'est-à-dire, je cite, entre la publication de l'Origine des espèces de Darwin et le moment où Voyager 1 quitte le système solaire, dessinant au passage dans l'espace-temps la flèche de l'évolution, fin de la citation. Entre ce jeu et la fin du récit qui se clôt sur le mot « ensemble », il y a ce conte initiatique qui revient sur les années d'apprentissage, entre les années 60 jusqu'au début des années 2000, de la narratrice qui se raconte depuis un futur éloigné où circulent les voitures volantes, les infirmières androïdes, et se succèdent les attaques terroristes et bactériologiques. Dans son appartement, elle, je cite, « reste là entre 3 dimensions, celle de son atelier, où son corps de chair se tient, celle de son studio virtuel, où son corps numérique maintient la pose qui a servi à créer l'image, et celle de sa galerie en ligne, où 5 avatars viennent d'apparaître. » Fin de la citation. Ce croisement entre le conte initiatique et le roman d'anticipation expose un fondement archaïque dans un environnement futuriste. En effet, la matière fictionnelle des romans de Caroline George semble vouloir cartographier une certaine préhistoire du continent numérique à travers le conte initiatique. Les contes proposent généralement des héros qui doivent construire eux-mêmes leur propre destin en étant confrontés à divers obstacles qui correspondent aux épreuves d'un rite de passage. Après les avoir traversés avec succès, l'agrégation a lieu, qui peut peut-être être cautionnée par un mariage, mais pas nécessairement. Le héros ou l'héroïne transformé peut alors réintégrer sa collectivité et embrasser sa nouvelle destinée. On verra que c'est peut-être pas ce qui se passe à la fin du roman. De synthèse est ainsi un conte initiatique à rebours des avancées scientifiques qu'il déploie. Il arrive que les romans d'anticipation soient de manière plus souterraine des contes initiatiques, comme si déplacer l'intrigue dans un futur plus ou moins éloigné, dans un monde possible, ouvrait un champ d'action plus large pour un héros ou une héroïne, lui permettant ainsi d'accéder à un autre statut pour dépasser un état de subordination, ou encore pour traverser les seuils. Ce croisement fait ressortir l'étrange relation entre l'expression et l'exploitation quand il s'agit de réfléchir à la problématique femmes-médias. Les femmes et les médias sont au cœur d'une dialectique particulière qui introduit des rapports de force qui peuvent s'illustrer par une volonté d'expression et donc une autonomie, une émancipation, mais également par la soumission et une exploitation de cette même expression, qu'elle soit volontaire ou non. Michel Matelard soulève cette problématique au cœur des enjeux actuels, je cite. Il faut souligner la complexité croissante du thème femmes-médias, affectée par les bouleversements qui ont marqué aussi bien ce champ de la théorie critique des médias que celui des pratiques et des analyses féministes. Il nous invite à réfléchir sur les ambiguïtés des nouvelles matrices conceptuelles, ambiguïtés profondément liées dans le contexte de post-structuralisme, post-féminisme et post-modernisme, à la crise des utopies sociales, la crise des identités et des grands récits d'émancipation, la crise enfin des modèles de légitimation des savoirs et des actions. Après avoir passé toute son enfance devant la télévision, son principal moyen de connaissance, l'héroïne fuit le domicile familial à cause de la violence du père. Elle passe quelques années à Paris pour faire du mannequinat, s'initie à la photographie et découvre en fait les images de femmes peintes par les grands maîtres en côtoyant une historienne de l'art. Après 10 ans d'exil et désormais dépendante de fortune, grâce à l'exploitation de son propre corps, elle revient au pays et se donne comme quête, je cite, de se faire glaise pour y creuser l'empreinte du féminin. On voit le golem, hein? C'est intéressant. En d'autres termes, elle se fixe l'objectif de s'incarner dans l'environnement virtuel pour tracer sa propre évolution, je cite. Parmi les découvertes technologiques, électroniques et autres miracles scientifiques à tout bouleverser depuis 2 siècles, c'est avec un masque et une paire de gants que je détermine maintenant l'horizon de mon évolution. Depuis près d'une décennie, je me retrouve chaque jour en réalité virtuelle, face à face avec mon double de pixels, à tenter de prendre corps à travers elle. J'y étais presque, et puis ma mère a commencé à se décomposer. Le roman parle de notre présent, en explorant les conséquences des réseaux sur les années d'apprentissage d'une jeune femme qui s'est construite entre autres à partir des images diffusées par les magazines, la télévision, le cinéma, les technologies du numérique. Je voudrais rappeler ici que les rites de socialisation, que sont les rites de passage tels que la séparation, l'initiation, l'agrégation, et que l'on retrouve également dans les contes initiatiques, ont été réinvestis dans les images de magazines, les publicités, les séries télévisées et autres médias relevant de l'iconographie. En d'autres termes, ce sont les images de femmes qui ont forgé l'identité de l'héroïne, en parallèle des échanges et de la socialisation avec les femmes de son entourage. On assiste donc à la fonction d'initiation par des moyens de communication iconographique qui performent davantage que l'écrit et l'oralité, je cite. Je voulais être une image, bien avant de comprendre que j'allais devoir choisir un métier et peut-être même étudier pour l'apprendre. Être née 200 ans plus tôt, j'aurais su dès l'enfance ce que je devais devenir, ma grand-mère me le répétait souvent. J'aurais appris à cultiver la terre de mes ancêtres, à entretenir une maison, à jouer de la avec la poupée, pour déjà tenir entre mes mains, plus petit que moi. Être née princesse, j'aurais certainement imité la reine, à tourner en rond jusqu'à l'épuisement, avec une couronne sur la tête, isolée dans la forteresse imprenable de mon futur royaume. Mais je suis née en banlieue, dans une ville dortoir. J'ai grandi dans un bungalow avec une gamme complète d'électroménagers et ma mère restait là, assise à la fenêtre, sous le vacarme du lave-vaisselle, à observer l'horizon de bungalow identique en fumant une cigarette. Elle était presque aussi statique que les images de femmes dans les magazines de ma grand-mère, mais sans maquillage, ni coiffure et sans vêtements griffés. Fin de la citation. S'ensuit alors une longue quête identitaire pendant laquelle la narratrice décrira le réseau des images qui l'ont formée. Je cite, « Dès que j'ai su que je pouvais m'incarner dans un monde virtuel, j'ai voulu retrouver ma véritable identité, une image de femme magnifiée. » Fin de la citation. Elle se crée alors un avatar dans l'environnement virtuel Second Life, dont elle est l'une des premières utilisatrices, pour ne pas dire exploratrice. Elle passera ensuite à un autre degré en configurant un hologramme dans son appartement. Cet avatar et cet hologramme rendront compte de la multiplicité des images qui composent son identité et auxquelles elle rend hommage en se les appropriant, mais qui marquent son incapacité à se trouver une identité propre. Cet imaginaire du réseau, développé dans le récit, produit donc un personnage réticulaire que nous tenterons de circonscrire ici. Ce personnage réticulaire invente un ordre symbolique dans l'environnement virtuel, un entre-deux-mondes dans lequel elle joue le rôle de passeur entre la réalité sociale, un ordre symbolique établi, et le continent numérique, un ordre symbolique en devenir dont l'éthique, les valeurs et les objectifs restent à définir. Le personnage réticulaire apparaît telle une entité transversale, totalement immergée et immanente à un réseau de relations entre vivants et non-vivants. Au sein de l'environnement technologique, le personnage réticulaire est traversé de liens relationnels qui l'interconnectent à une variété d'autres. Au-delà de cette trame narrative, le récit témoigne de deux destins de femmes, une mère à l'agonie à l'hôpital et sa fille anxieuse, la narratrice, qui a fait le choix de vivre sur le continent numérique, et plus précisément dans le métavers, comme vous le savez, à travers son avatar. À la mort de la mère, la narratrice réunira, dans le tombeau poético-numérique qu'elle lui consacre, leurs deux corps sous forme d'hologramme. Le rituel de la mort créé pour sa mère au sein de son environnement virtuel est semblable à une organisation autopoétique, entre autres par sa répétition et son autosuffisance. Je me dis, je cite, que je pouvais lui permettre de se transformer elle aussi en oiseau et simuler son envol depuis mon atelier, répéter cette boucle chaque jour, voir ma mère prendre la forme d'une chouette rayée disparaître à l'horizon, aller explorer le monde qu'elle a trop peu connu pour revenir quelques heures plus tard et reprendre sa forme humaine. Je vais donc créer mon propre hologramme aujourd'hui. J'avais besoin de réfléchir au visage que je devrais porter aux côtés de ma mère. La réponse s'est imposée. Je suis le palimpseste de toutes mes images, alors je vais créer un enchaînement à rythme régulier avec tous mes visages en boucle. Peut-être à la manière d'un battement de cœur, mais plutôt que d'observer un écran, c'est elle que je vais contempler dans un regard hypnotique et fasciné. Fin de la citation. Cette authenticité qui peut s'apparenter au simulacre tel qu'entendu par Baudrillard, par exemple, est néanmoins le reflet, qu'on le veuille ou non, d'une volonté de s'extirper de la réalité sociale pour créer un nouveau rapport à soi. Dans ce système autopoétique dont les frontières sont contrôlées par la narratrice, n'entre pas qui veut. Tous les regards demeurent sur le seuil. En se soustrayant ainsi à tous les regards qui imposaient les règles, les influences, les valeurs et les statuts dans l'ancien monde, la narratrice peut enfin déterminer son nouvel horizon en conservant des éléments de l'ancien monde, comme le rituel de la mort, par exemple. Le rituel de la mort demeure, bien qu'il soit médié par la technologie. La mémoire de la mère est honorée et sa dignité restaurée. La technologie dont dispose la narratrice donne une hors-vie, concept de Jean-Michel Ganassia, mais une vie qu'elle aurait voulu vivre, mais dont elle n'a jamais pu faire l'expérience. La narratrice, quant à elle, fait don à sa mère de la liberté, de l'autonomie, dans un contexte qu'elle considère davantage authentique, car issu de sa subjectivité que je qualifierais de nomade, en référence à Rosie Braitotti, et je cite. Deux notions jouent un rôle clé dans ma vision de cette subjectivité féministe nomade, la mémoire et la narration de soi. L'effort pour représenter ce qui est considéré comme irreprésentable dans le régime symbolique actuel. Cette pratique de déterritorialisation de la parole passe par la critique des racines fixes et uniques, car toute racine est monolingue, comme nous l'apprend Glissant. Un plurilinguisme conceptuel est nécessaire à la pratique féministe des cartographies politiques du positionnement. C'est un micro-politique très appliqué, immanente et sexuée, une forme matérialiste de la pensée qui se nourrit des pratiques féministes de la parole. Fin de la citation. La narratrice semble avoir échappé à la ritualisation du féminin par les femmes en chair et en os, ce qui l'entourait. Elle ne se marie pas, elle n'a pas non plus accès à la sexualité, elle n'en veut pas non plus. Elle se tourne plutôt vers les médias pour tenter de trouver les modèles pour se définir. Cela fait en sorte que les modèles retenus sont des figures archétypales, féminines, éternellement jeunes, émancipées, indépendantes, individualistes, mais surtout inatteignables. Ces archétypes sont à l'opposé des modèles féminins qui gravitaient autour d'elle, c'est-à-dire des femmes malheureuses, elles-mêmes confrontées aux mêmes images, mais tout de même conscientes de leur aliénation, vivotant dans un monde dominé par les hommes, enfermées dans leur cuisine, emprisonnées dans leur mariage. Des femmes à la Michel Tremblay. Hein? Néanmoins, malgré ces différences, le dénominateur commun qui unit ces femmes sublimées et celles qui habitent les banlieues, et qu'elles sont pour la plupart statifiées et silencieuses. La narratrice s'impose à un très jeune âge, cette discipline de l'image fixe. Elle demeure des heures et des heures devant le téléviseur sans bouger. Cette technique du corps lui fera d'ailleurs remporter un concours de mannequinat. Les conséquences de ces années d'immobilisme sur ses capacités cognitives, néanmoins, seront multiples, de la disparition de l'empathie, à l'incapacité de discerner le vrai du faux, en passant par l'inaptitude à tisser des liens avec les autres. Là, l'idée de rester dans son appartement. Ce désir de déterminer l'horizon de son évolution par la relation médiée avec les technologies du virtuel après des années de mannequinat et une enfance immobile devant la télévision confirme l'existence de ce fameux système autopoétique tel que je l'ai déployé. L'instauration d'un tel système pourrait lui faire accéder à une forme d'autodétermination puisqu'elle tente de prendre en charge son destin dans un environnement qui n'a pas encore été édicté par un système androcentriste orienté par une forme de patriarcat ou d'humanisme libéral, comme vous voulez. Néanmoins, elle traverse ce monde nouveau en y apportant forcément des images archétypales de la femme pour constituer son avatar Anouk et son hologramme. Je prendrai l'exemple de la pin-up du grand-père pour illustrer cette idée. Donc, son grand-père à elle, je cite, « Donc, il n'y avait aucun livre chez mes aïeux que les magazines de fesses de mon grand-père qui affichait son amour pour les pin-up avec un mélange de fierté et d'expiéguerie et qui prenait plaisir à me faire découvrir sa flamme du moment. » Bien en vue sur son calendrier snap-on, accroché au mur de la cuisine, à côté du buffet, telle une œuvre d'art en renouvellement constant. Chaque mois, mon grand-père commentait la nouvelle recrue. Regarde cette courbe-là, c'est de la vraie poésie. Fermez l'email. L'ethnographe Anne Monjarret s'est intéressée à ces femmes épinglées dans son essai « Pin-up à l'atelier ». Qui sont de pure création masculine, nourries de stéréotypes et de fantasmes. La pin-up n'est certes pas une servante innocente, mais pas non plus une prostituée. Un archétype du corps de la femme-objet, un objet inconsommable du désir, seul sur l'image, sans concurrence, cet archétype androcentré, en principe stylisé, est isolé et n'a pas de conquérant, tout comme, je le souligne, l'héroïne du roman et ses extensions virtuelles. Selon Jean-Marie Privat, qui commente le texte de Monjarret, dit... C'est un dispositif iconique où s'affiche une image sublimée, entendre remodelée, et subliminable du corps de la jeune femme sexy. Ainsi, toute la volonté de l'héroïne pour s'affranchir du système androcentriste qui l'a éduquée est forcée de constater que l'avatar et l'hologramme créés par l'héroïne reproduisent aussi ces archétypes dans un renouvellement constant. Je cite. J'avais donc créé mon propre hologramme aujourd'hui. J'avais besoin de réfléchir au visage que je devrais porter aux côtés de ma mère. La réponse est imposée. Je suis le palimpseste de toutes mes images. Néanmoins, il serait possible de dire que la narratrice fait le choix de l'authenticité en ne choisissant pas une seule image, mais en admettant toutes les figures archétypales qui l'ont définie dans une volonté de réconciliation ou de synthèse. Cet héritage se double à son désir de faire reconnaître sa filiation, autant à l'égard des images de ces femmes côtoyées pendant l'enfance et l'adolescence, et je dirais surtout la généalogie millénaire des femmes qui l'ont mise au monde, je cite. « Il fallait que je lui ouvre la porte de chez moi, là où le corps qu'il a formé dans le sien se trouve, dans la matière du vivant, à quelques rues de l'endroit où elle a elle-même surgi dans le ventre de sa propre mère, et celle-ci dans celui de mon arrière-grand-mère, la toute première de notre lignée à avoir traversé l'océan avec l'espoir d'y trouver un nouveau monde. Peut-être avec la même excitation que moi au moment de ma renaissance virtuelle. » Fin de la citation. J'ajouterais que cela témoigne aussi d'une ambiguïté propre à la problématique qui enchaîne les femmes, les médias de masse et le regard qu'on leur porte. En effet, les rapports troubles et conflictuels entre les femmes et les médias et vécus par la narratrice pourraient s'expliquer par le chiasme suivant. Je me suis essayée au chiasme. Tout d'abord, comme mannequin, l'héroïne exploite son corps et elle exprime un désir attendu. Et plus tard, elle s'exprime et elle exploite toute la complexité de son être. Les années de mannequinat rendent opératoire la logique de l'intérêt spéculatoire ou économique de la protagoniste qui saura, avec son corps immobile et son regard sans expression, amasser de quoi subvenir à ses besoins pour le restant de ses jours. Désormais libre de fortune, elle se consacre exclusivement à son art numérique, sans bouger d'un iota, son corps étant devenu une partie de ce réseau qu'elle tente de mettre en place. D'un immobilisme à l'autre, à cheval entre la réalité sociale et continent numérique, Son expérience rejoint une constatation de Cherry Turkle, je cite encore Cherry Turkle, que le corps se déplace dans un espace non conflictuel. Voilà toute la séduction de l'idéologie technocratique du non frictionnel. Cette vision nous séduit en nous convainquant qu'une existence sans conflit, sans confrontation avec le passé, sans rencontre avec des gens pénibles, est la vie qu'il nous faut. On nous promet une vie agréable parce que rien ne viendra nous rappeler les erreurs du passé ou nos anciens chagrins. Toutes ces choses que nous considérons comme des problèmes et que la technologie doit nous aider à résoudre. Fin de la citation. Plus les avancées scientifiques et médicales permettent d'éloigner la mort de nos vies d'occidentaux, plus celle-ci s'installe dans nos esprits. Depuis Hiroshima, par ailleurs, l'humanité a pris conscience qu'elle pouvait se détruire et disparaître complètement. J'aurais pu citer Hélène, mais là, j'ai cité Michel Serres. Par la double maîtrise de l'ADN, de la bombe, nous voilà responsables activement de notre naissance et de notre monde. D'où venons-nous de nous-mêmes ou irons-nous vers une fin prescrite par nous-mêmes? Restant hommes et devenant œuvre de nous-mêmes, nous ne sommes plus les mêmes hommes. Le corps subi demi-naissance nous restitue cause de nous-mêmes. Faites la citation. La mort imminente de la mère fera émerger du passé des souvenirs d'enfance et d'adolescence de la narratrice qui croiseront à la fois le récit de la relation mère-fille, mais aussi le récit des images qui l'ont façonnée au fil des années. Si Donna Haraway termine Cyborg Manifesto en déclarant qu'elle préférerait être une cyborg plutôt qu'une déesse, la narratrice du roman de synthèse préfère quant à elle devenir un personnage de fiction plutôt qu'une déesse, à l'instar des femmes médias à partir desquelles elle s'est modelée. L'exemple d'Olivia Newton-John, rappelez-vous Grease, et je vous remercie, ça me fait plaisir pour le verre d'oreille. Je cite, « Olivia faisait partie de ces êtres fabuleux, des personnages de contes de fées. Je ne la considérais pas comme un être humain, plutôt comme une déesse, mieux un personnage de fiction. » Et sa consternante humanité m'a dévastée. Sa consternante humanité l'a dévastée puisqu'elle apprend dans un magazine à potins, attendez-vous, qu'Olivia est enceinte. Breaking news. Et elle décide donc de se tourner vers une autre icône, celle de Marilyn Monroe. Je cite, « C'était la star des stars, l'archétype des supermodèles, peut-être la femme image la plus percutante de toute l'histoire du cinéma. Je suis repartie ce jour-là avec 3 affiches d'elle et une nouvelle conviction. Pour mériter l'adoration, les idoles devaient toutes être mortes et avoir atteint le statut d'image permanente. » Fin de la citation. Les contes proposent des héros qui construisent eux-mêmes leur propre destin, mais pour répondre aux coutumes de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Cependant, dans le roman de synthèse, il apparaît que c'est plutôt l'héroïne qui fera entrer sa collectivité au sein de son propre destin en créant un autoportrait de famille à l'aide des outils technologiques dont elle dispose, je cite. « Je vais installer mon hologramme dans l'angle du sourire de ma mère, en tailleur, comme à l'époque de mon enfance devant la télévision. Mais plutôt que d'observer un écran, c'est elle que je vais contempler avec un regard hypnotique et fasciné. Et je vais ajouter un détail aussi, dans la main de ma mère, une photographie, celle de son mariage où elle semble en parfaite harmonie avec mon père. Ce sera mon autoportrait de famille. » Fin de la citation. Le personnage réseau chez Caroline George est un personnage entre deux mondes. Il est tout d'abord un transfuge de classe, c'est-à-dire à la croisée de plusieurs cultures. La culture populaire mineure, provenant des États-Unis, notamment aussi un peu québécoise. Accessible par la télévision et le cinéma, d'une part, et la culture majeure européenne, en tout cas du moins le séjour qu'elle a fait à Paris, classique, accessible par la peinture et la littérature, d'autre part. Ce personnage réticulaire réussit à synthétiser sa propre culture par la technologie du numérique, à partir de laquelle il crée son propre médium en toute liberté, croit-on au départ. L'exploration de nouvelles capacités cognitives à l'aide d'outils numériques tels que le masque, les gants et l'écran l'amène à traverser du côté du continent virtuel. On pourrait donc penser que l'art développé par le personnage réticulaire est avant-gardiste, mais il faudrait garder en tête que, et je citerai évidemment Agamben, les historiens de l'art et de la littérature savent qu'il y a entre l'archaïque et le moderne un rendez-vous secret, non seulement parce que les formes les plus archaïques semblent exercer sur le présent une fascination particulière, mais surtout parce que la clé du moderne est cachée dans l'immémorial et le préhistorique. C'est ainsi que le monde antique se retourne à la fin pour se retrouver vers ses débuts, l'avant-garde qui s'est égarée dans le temps, recherche le primitif et l'archaïque. Mais à quel archaïsme nous convie le personnage réticulaire? À propos des moyens et des modes de communication, l'anthropologue Jack Goody pose l'hypothèse suivante. Si les mentalités changent, c'est plutôt à cause des systèmes de communication qui se cumulent sans jamais se remplacer et aussi par la relation de l'iconographie aux autres formes de communication graphique, particulièrement l'écriture. Goody s'intéresse donc aux moyens de communication et à leur rôle dans le changement et le développement des sociétés. Voilà donc un sujet qui pourrait être exploré quand il s'agit de réfléchir aux fictions d'anticipation, dont l'intrigue s'incarne dans un futur plus ou moins rapproché, qui crée une distanciation cognitive qui n'a peut-être rien d'un novum, mais plutôt l'allure d'un retour en arrière ou mieux encore d'un système archaïque de communication. Au sein de ce système s'entrecroisent, s'imbriquent ce qui semble être de nouvelles technologies de communication. Ces mutations communicationnelles, selon Goody, engageraient forcément un changement dans la cognition, ce qui l'amène à formuler l'idée selon laquelle l'écriture et l'iconographie, par exemple, feraient partie de ce qu'il appelle les technologies de l'intellect. Est-ce que les nouveaux moyens de communication déployés dans les fictions d'anticipation comme dans le roman de synthèse jouent un rôle dans le développement des processus cognitifs des personnages, dans l'accroissement de leur savoir et de leur capacité à les stocker et à les enrichir? Enfin, à l'image de l'hydre, peut-être même une hydre numérique, les capacités cognitives de la protagoniste se sont-elles à ce point décuplées qu'elles pourraient offrir une forme d'utopie, des nouvelles facultés, lesquelles seraient suffisamment sérieuses pour qu'on puisse parler de nouveaux outils de l'intellect. Merci.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.